France Culture.
France Culture, la nuit, un patrimoine radiophonique. Des mots, des gestes, des désirs, des espoirs, des idées, des actes. Le point commun entre l'amour à 20 ans, le blé en herbe, avant le déluge, Manon, baiser volé, à nos amours, la petite voleuse, l'adolescence. Donc l'adolescent ou l'adolescente. Le cinéma filme les adolescents. Les films traitent l'adolescence du point de vue de l'adulte ou du point de vue de l'adolescent. Rediffusion d'un mardi du cinéma, proposée pour la première fois sur France Culture, le 31 janvier 1989.
La première fois, c'était mardi. C'était la symphonie héroïque. J'étais assis juste derrière elle, enfin un peu à sa droite. À un moment, elle a retiré son foulard. Alors pendant toute la soirée, j'ai regardé ses cheveux et sa nuque. J'ai pas pu la quitter du regard. Ce soir-là, j'étais décidé à lui parler. À la sortie, je me suis faufilé pour la rejoindre. Seulement, elle a rencontré une copine, alors je les ai suivis 5 minutes, puis je suis rentré me coucher.
Être adolescent au cinéma.
La deuxième fois, c'était jeudi. Je suis arrivé une demi-heure en avance pour m'asseoir à côté d'elle. Il n'y avait presque personne quand je suis arrivé. Alors je suis sorti dans le hall, fumé une cigarette en attendant que la salle se remplisse. Quand je suis revenu, il y avait pas mal de monde. J'ai regardé et je ne l'ai pas vue tout de suite. Elle était assise à genoux sur un fauteuil en train de parler à une copine. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle, elle m'a fait un petit signe de tête comme à quelqu'un qu'on reconnaît vaguement. Seulement, manque de peau, elle est allée s'asseoir ailleurs, dans une rangée où elle avait laissé son manteau. Je n'ai pas osé la rejoindre, ça serait trop remarqué.
Une émission proposée par Francesca Piolo et réalisée par Josette Collin.
La troisième fois, c'était Nathan. C'était hier. Elle se baladait du côté de la mairie des Batignolles avec un filet à provisions. Certainement, elle doit habiter dans mon quartier.
Bon, t'as fini les travaux d'approche, maintenant tu peux attaquer.
Qu'on l'appelle l'âge d'or, l'âge ingrat ou l'âge bête, le cinéma a longtemps été embarrassé quand il s'agissait de parler de l'adolescence. Et les réalisateurs ont essayé de contourner la difficulté en travestissant les héros ou en trichant avec leur âge. L'important, après tout, c'était d'avoir l'air adolescent. En témoignent Gérard Philippe et James Dean. Et l'histoire de l'adolescence au cinéma se confond d'abord avec une manière de décliner l'ingénuité. Françoise Audet.
Du côté des filles, et en particulier alors des jeunes filles, on trouve une série d'images de jeunes filles très, très, très limitées, très encadrées. La jeune fille des années 30, la plus intéressante, c'est Danielle Darrieux, qui a commencé sa carrière à 13 ans aussi, et par deux films, Le bal de William Teal et surtout Coxygrol de Berthomieux. Bon, Berthomieux est un réalisateur extrêmement médiocre. La seule chose intéressante dans Coxygrol, c'est Danielle Darrieux. Elle a 13 ans et elle est vraiment explosive. Or, après, on continue à utiliser ce qui est acceptable de son personnage. Alors, elle a joué 18 films entre 13 et 20 ans. où elle est à l'âge de l'adolescence, ou encore simplement en donnant les titres, on voit de quelle manière on limite les côtés qui pourraient être subversifs de sa personnalité. Bon, quel bel gosse de Léo Johannon. Et ses films avec celui qui devient son mari, de coin, abus de confiance et battement de cœur. Elle est absolument délicieuse, pétillante, pétulante, coquette, espiègle, frondeuse. C'est l'ingénue. C'est l'ingénue et on retrouve un personnage confortable du théâtre. Jacques Siclier a même ajouté qu'elle était l'image même des jeunes filles pour publication de Midinette. Elle est tout confort. Elle a apparemment des aventures et même des situations scabreuses, mais on ne peut jamais imaginer que ça ne reste pas chaste. Et il y a même un film stupéfiant, Club de femmes, où elle est dans une pension pour jeunes filles pour jeunes filles que l'on veut protéger et élever dans la bonne morale. Elle fait une incartade, elle est enceinte. Eh bien, ce personnage de Daniel Darieux est unique, je crois, dans l'histoire des années 30. Elle est donc fautive. Et la directrice et tout le monde la prend en pitié, on accepte le bébé, on la marie évidemment, on la marie à un moment où la grossesse n'est encore pas visible physiquement, mais elle est typiquement l'ingénue envers et contre tout et c'est l'image absolument convenue des années 30, parce que à côté de Daniel Darieux, il y avait les ingénues fades, Annabella, Madeleine Auzeray, languissante, timide, effacée, pure, absolument pure, évidemment. Et tout ça, je crois, vient de l'image, de l'archétype des origines de la femme enfant de Griffith, des sœurs Guiche, de Liliane Guiche. Les dentelles, la femme enfant, la pureté, tout est en place.
Alors, tout pour qu'elle soit irresponsable.
Et Daniel Darieux dans Club de femmes réussit à être enceinte tout en étant irresponsable. C'est l'ingénu en béton.
Ah, oh, le voilà, le moulin joli. Ah oui, c'est là. T'as pas accroché le sourire d'Avril au moins? Oh non, je suis restée debout exprès. Ah. Oh, tu es ravissante. J'ai vu la fille d'un milliardaire américain dans les salons de la maison de couture. Eh bien, tu es beaucoup plus chic qu'elle.
Tu crois?
Mais oui, c'est vrai. Allez, vas-y, vas-y.
Bon, attends encore un petit peu, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il va penser de moi?
Oh, un amoureux, ça ne pense jamais.
Et puis comment vais-je le reconnaître? Il ne m'a pas dit qu'il aurait un œillet blanc à la boutonnière ou un mouchoir à la main.
Il a ta photo, mais il te reconnaîtra tout de suite.
Bon, alors j'entre, il vient vers moi, il me baise la main.
Ah non. Les mannequins m'ont dit qu'on ne baisait jamais la main d'une jeune fille.
Ah bon? Bon, alors j'entre et il vient me serrer la main. Puis après?
Après? Mais c'est l'homme qui doit parler. Il ne te laissera même pas le temps de lui répondre. Les amoureux, c'est d'un bavard.
Tu crois?
Mais bien sûr. Enfin, c'est les mannequins qui le disent.
Bon, alors à tout à l'heure, Henriette. Oh, j'ai un de ces trucs. Alors j'entre, je lui baise la main. Enfin non, il me serre la main. Bien.
Allez, vas-y.
Je voudrais quand même dire que dans les années 30, il y a une image de jeune fille émouvante, poignante, c'est Sylvia Bataille dans La partie de campagne. Dès qu'on arrive à un grand cinéaste, dès qu'on arrive à Renoir, les femmes de Renoir ne sont pas simplistes ou simplettes. Et le tabou de la virginité est joyeusement bousculé, ou plutôt bousculé avec gravité dans La partie de campagne. Et Sylvia Bataille est une des plus belles images d'adolescente, bon, qui défaille, qui connaît l'amour. Dans un espèce d'unanimisme avec la nature chaude de l'été, c'est magnifique.
C'est à vous, monsieur, ces jolis petits bateaux qui sont sous le hangar?
Oui, mademoiselle, enfin, c'est à vous deux.
Vous voulez pas aller faire un tour? Un tour en rivière tous les quatre, c'est ça qui serait épatant. Vous voulez pas?
On pourrait aller du côté du barrage de la Gravine, vous verrez que c'est joli.
Oh oui, dis maman, tu veux. Je ne sais pas si ce serait bien qu'on nage. Mais nous risquons d'être prises par la pluie. Et surtout, il faut demander à monsieur Dufou.
Bah, là, j'ai pensé, voilà le soleil.
C'est vrai, c'est beau. Je peux aller demander à papa, maman.
Ah, et si c'est monsieur Monsieur à t'accompagner, ils expliqueront à monsieur Dufou. Ce sera plus convenable.
Merci, maman. Oh, Henriette.
Finalement, il y a des constantes qui reviennent très très vite et qui sont très claires.
Anne-Marie Faux.
C'est-à-dire que jusqu'à une date finalement assez récente, les points de vue qui étaient donnés sur l'adolescence étaient toujours des points de vue d'adultes, c'est-à-dire que les adultes cherchaient à transmettre ce que eux pensaient de l'adolescence. Et finalement, dans ces conditions-là, la vraisemblance les intéressait assez peu. Les cinéastes, finalement, se disaient « ce qui compte, c'est le message que je vais transmettre, moi, à travers l'image que je donne, mais que les adolescents aient sur l'écran 15 ans, 18 ans ou 25 ans, ça n'a pas beaucoup d'importance. » Ce qui fait que très longtemps, on a vu dans les films, effectivement, bon, les cas typiques, ce sont Gérard Philippe et James Dean, qui sont les images d'adolescents du cinéma français d'un côté et américain de l'autre, et ce sont évidemment des gens qui n'avaient pas du tout l'âge des héros qu'il représentait. Hein. Bon, les exemples que j'ai pu donner, c'est l'exemple de James Dean, effectivement, qui avait 24 ans, ou celui de Gérard Philippe, qui avait aussi le même âge.
Dans Le Diable au corps.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est des âges qui n'étaient pas du tout ceux du rôle. Bon, le public ne cherchait pas forcément la vraisemblance, donc ça passait très bien que, finalement, Gérard Philippe ait l'air d'un adolescent. L'air suffisait, il n'était pas important que ce soit réaliste ou vraisemblable. Ça, c'est la première chose que j'ai constaté dans le cinéma. Et c'est vrai qu'on peut se dire que le contenu à ce moment-là est tout à fait lié à l'image. C'est-à-dire que les histoires qu'on racontait sur les adolescents, on ne cherchait pas à savoir si c'était une vérité sociologique. C'était absolument pas important. Les adolescents, l'important c'était qu'ils soient frais, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient beaux et qu'en tout cas, ils donnent une image de jeunesse.
Mon petit, il faut vous en aller et ne plus revenir ici.
Mais je ne reviendrai pas, madame.
À moins que... Non. Au revoir.
À moins... À moins que quoi?
J'aime mieux faire des cadeaux qu'en recevoir. Si vous revenez, on verra bien si c'est pour votre plaisir. Je n'aime que les mendiants, monsieur Philippe, ou les affamés. Revenez donc la main tendue. Allez. Allez.
J'ai compris.
Mais vous ne m'avez pas dit que vous partiez.
Les fleurs.
Le blé en herbe, bon, c'est l'exemple contraire d'un cinéaste qui a osé prendre des acteurs qui avaient effectivement l'âge des rôles. Bon, ce que je disais tout à l'heure, ça doit aussi être complété par le fait que les agences de casting, ben, ça n'existe pour les enfants. Enfin, même pour les adultes, je crois. Mais en tout cas, pour les enfants, ça n'existait absolument pas. C'était des choses... Alors que maintenant, enfin, moi, on m'a raconté qu'à Paris, les agences de casting pour les enfants, il y en avait absolument à tous les coins de rue. Que donc, ça permet aux réalisateurs d'aller chercher dans les agences des gens qui sont jeunes, alors qu'effectivement, autrefois, ça n'existait absolument pas. Et que, je ne sais pas, bon, si les parents auraient autorisé des gens de 14 ans à tourner un film, je ne pense pas que ce soit un problème législatif. Mais en tout cas, professionnellement, c'était absolument pas organisé comme ça l'est aujourd'hui.
Allô?
Non, arrête le disque.
C'est de la part de qui?
Ah, c'est toi, Richard? J'écoutais la radio, je voulais prévenir Daniel d'une nouvelle très inquiétante.
Bien, ça va de mieux en mieux. Je dirai à Daniel de te rappeler. Bonsoir. L'ultimatum de Truman, la Chine a répondu par un autre ultimatum. Si les Américains n'évacuent pas la Corée et Formose...
Monsieur Richard, monsieur, je ne peux plus en
entendre. Liliane.
...1954, un film d'André Cayatt, Avant le déluge, un entretien avec un acteur du film, Jacques Fayet.
Je crois que la date est importante parce que qu'est-ce que ça voulait dire? C'était 7 ans à peine après la Seconde Guerre mondiale, c'était en pleine guerre d'Indochine... Et on savait très bien que les gouvernements successifs ne savaient pas y mettre fin. Et puis c'était surtout pendant la période de la guerre froide qui était à son paroxysme là. Il n'y avait pas un jour où les journaux nationaux, les journaux internationaux faisaient état des affrontements verbaux, jusque-là verbaux, de certains coups de force et des ultimatums que se lançaient les deux blocs de l'Est et de l'Ouest. Et vous savez que les jeunes qui avaient 16 ou 17 ans en 1953 se souvenaient très bien de la guerre. Ils l'avaient vécue cette guerre et certains d'entre eux l'avaient même très mal vécue. Et puis d'autre part, un jeune de 17 ans, en 1953, savait très bien que si les gouvernements étaient incapables d'arrêter la guerre d'Indochine, ils étaient très capables de nous y envoyer. Et ça, on ne le voulait pas, parce qu'on nous disait que la guerre était très dure là-bas, très violente, très meurtrière aussi. Et puis, on savait qu'un affrontement armé entre l'Est et l'Ouest serait plus terrible encore. Alors ça, nous ne le voulions pas, on le refusait, et en plus, on en avait peur. Alors si vous voulez, le film de Cayatte avant le déluge, c'est organisé, le scénario qu'il a fait avec Charles Spack, c'est organisé autour de cette psychose et de ce refus. C'est ça le sujet. Alors il avait réuni 5 jeunes, et qui venaient d'horizons sociaux tout à fait différents. Je vous résume ça brièvement, mais enfin peut-être que pour la compréhension c'est nécessaire. Oui. Il y avait le fils d'un industriel qui ne pensait lui qu'à ses affaires, sa femme ne pensant qu'à ses amants et délaissant complètement leur enfant. Il y avait le fils d'une veuve qui était devenue une mère très abusive, qui couvait son fils, elle le couvait tellement qu'elle en avait fait une petite chose chétive, complètement dépendante, et elle le poussait presque vers les garçons, parce qu'elle pensait qu'un garçon, tout de même, c'était moins dangereux qu'une fille qui pourrait le lui arracher. Il y avait un jeune juif, un peu intellectuel, qui vivait à Paris parce qu'il avait un oncle en Amérique qui lui envoyait quelques subsides. Il y avait une jeune fille, 16 ans à peine, qui est interprétée dans le film par Marina Vladi. C'était son premier film, Marina Vladi. Elle était fille d'un professeur qui passait ses soirées, lui, à faire des tracts, à aller dans des réunions politiques. Et puis la nuit, il allait coller les tracts aussi. Alors elle était livrée elle-même et très solitaire. Que fait une fille quand elle est solitaire ? Ben, elle rencontre forcément un garçon. Et puis il y avait le fils d'un musicien. Alors ces musiciens... Il avait eu beaucoup d'histoires pendant la guerre. Il avait tenu tête à son chef d'orchestre à l'Opéra de Paris pour jouer la Valkyrie d'une façon guerrière. Et les Allemands dans la salle l'avaient beaucoup apprécié, à tel point qu'ils l'avaient emmené en Allemagne, ce musicien, et le musicien avait fait une grande carrière. À la libération, qu'est-ce qui est arrivé ? On l'a mis en prison pour plusieurs mois, pour plusieurs années. Et à sa sortie de prison, il répétait à son fils, qui avait 15, 16 ans, 17 ans, il lui disait « Il y a eu la guerre !» Parce qu'il y a des juifs. La guerre a été perdue parce qu'il y a des juifs. On m'a mis en prison parce qu'il y a des juifs. Et tout ça, le môme, il faisait pas très attention. Il disait, bon, bah, papa, il a un peu souffert, il a un peu braque, mais tout ça, ça reste quand même. Ça reste jusqu'au moment où ses pensées peuvent prendre, si vous voulez, de l'épaisseur, où elles trouvent matière à s'exprimer. Alors, je vous l'ai dit, le film s'organisait autour de la peur de ces jeunes qui n'avaient presque rien de commun ensemble. Ils étaient au lycée, mais ils n'avaient rien de commun, sauf une chose, la peur de la guerre, la peur qu'on les envoie à la guerre, la peur de souffrir, d'aller dans des camps, de ne plus manger, de voir leurs parents déchirés et tout cela. Donc ils se disent, il faut qu'on s'en aille. Et ils rêvaient d'une île merveilleuse, d'une sorte d'atoll perdu dans je ne sais quel océan, mais pour aller là-bas, il fallait beaucoup d'argent. C'est très cher de traverser les océans, de pouvoir vivre aussi pendant le voyage et même après. Alors ils se disent, ils organisent un coup, comme ça. Ils disent, on va aller voler, d'abord ils trouvent que c'est moral un peu, ils vont voler la collection de timbres d'un type, d'un collectionneur qui habitait une villa à Montessuy, près de Paris. Ils n'ont pas l'habitude, ces jeunes, de faire des coups comme ça. Ils ont bien lu des faits divers dans les journaux, mais on n'apprend pas forcément les choses en lisant les journaux. Alors ils ne savent pas très bien faire le coup, et il y a une erreur. Ils tuent le gardien de la villa. Et à partir de là, le film change tout à fait de plan. Ces enfants ont tué, et on se demande pourquoi. Alors on se demande pourquoi, parce qu'une mère couvait son fils et qu'elle en a fait une lope, il faut bien le dire. L'autre, parce qu'il était tellement riche... tellement, il n'avait aucun sens du devoir, non pas du devoir, mais de l'obligation de gagner sa vie. Très bien, on fait un mauvais coup, c'est plutôt amusant parce qu'il s'ennuyait un peu dans sa richesse. Il y avait le fils des musiciens, se dit, attention, on a tué un homme, est-ce que notre équipe va être soudée, est-ce que la police ne va pas réussir à faire avouer à l'un d'entre nous ce qui est arrivé ? Et il s'est dit, mais dans l'équipe, attention, il y a un juif. Et les juifs nous ont déjà apporté la guerre. Les juifs nous ont fait perdre la guerre. Les juifs ont fait que mon père a été pendant des années en prison et qu'aujourd'hui nous sommes dans la misère. Et par peur, parce que le juif n'est pas plus lâche qu'eux, mais ils le croient, eux, par peur, ils vont aussi, le fils du musicien va tuer le petit juif. Alors, le film est tragique. Il est très beau, enfin à mon sens, il est très beau, je n'en parle pas avec nostalgie parce que je l'ai revu il y a peu. C'est un film qui tient très bien le coup. Et la moralité du film, parce que Kayat, vous savez, était un avocat, il avait toujours un côté accusateur, il réglait un peu les comptes à la société. Et si on peut résumer d'une phrase un petit peu comme ça, un peu empirique, un peu pompier, pardonnez-moi, c'est que le fils du musicien a tué un petit juif, mais c'est son père qui avait armé sa main. Les enfants ne sont pas coupables. C'est leur environnement immédiat. L'adolescence n'est pas coupable. C'est l'environnement immédiat qui ne sait pas la préserver, qui lui donne de mauvais exemples et qui lui prépare des guerres. Voilà ce que je peux dire de ce film, comme ça, en une analyse un petit peu...
Ils ont réalisé en quelque sorte ce dont ils avaient peur, parce qu'ils étaient pétris de violence. Ils avaient peur de cette violence, puisque en contre-image, en contrepoint, ils rêvent de douceur, de lointain, de voyage.
Et ils sont devenus violents eux-mêmes.
Il est KO. Demande-lui ce qu'il a fait.
Jean, mais qu'est-ce qu'il a?
Non. Pas dans l'escalier. Entre. Je te dis d'entrer.
Qu'est-ce qu'il a? Jean, je t'en prie, explique.
Vas-y. Daniel, il comprend tout, c'est ta spécialité. Raconte ce que tu as fait.
Jean.
Il a descendu un meilleur de lui.
Qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible.
C'est comme ça.
Mais comment vous n'aviez pas d'armes?
Le meilleur de nuit en avait eu. Avec mon porte-cigarette, je désarmais. Va se prendre la pipe. Et lui comme le dernier des crétins. Tu vas lui raconter à ton Daniel?
Jean, ce n'est pas vrai.
Si.
Je dirais. Mais pourquoi? Je dirais, explique.
Puis pétoche, il a tiré. Pour rien, stupidement.
Et typiquement, il est tombé.
Juste au moment où tout était fini. T'as lui flanqué des baffes. Et c'est avec ça qu'on voulait s'embarquer. Le massif central avec les nouilles et le cacao, voilà ce qu'il convenait.
Il y avait une densité d'acteurs et il y avait cette bande de jeunes... qui n'avait quasiment pas tourné, enfin c'était mon cas, et on a appris énormément de choses. Enfin moi je me souviens que ce film a duré, je sais pas, 17 semaines je crois le tournage, ce qui est énorme pour un film, même un film de l'époque avec des moyens, c'était énorme, et même les jours où je ne tournais pas, moi je regardais ces gens-là et j'avais beaucoup d'admiration.
Justement, alors vous êtes un adolescent et Kayat vous demande d'être identifié comme ça, à ce jeune homme plein de...
Mais je m'identifiais très bien, vous savez, Francesca Piolo. Oui. Non pas sur l'antisémitisme.
Oui.
Ça, c'était chez moi, enfin dans ma famille, c'était une chose qu'on ignorait complètement. Mais j'avais la peur en moi. Je me souvenais de la... Je
la
me
peur
souvenais
du siècle,
d'Exode. Non. J'avais la peur de mon siècle. Et je sentais bien que cette guerre d'Indochine pesait sur les épaules d'un garçon de 17 ans, mais d'une façon incroyable. On se disait, si ça dure encore, je vais y aller. Et on en sortait. Vous savez, c'était pas facile d'être jeune dans les années 50. Ça n'était pas facile. Alors c'est vrai qu'on parlait de la guerre. Maintenant, on parlerait, je ne sais pas...
Du sida.
Je ne sais pas, l'adolescent actuel doit parler du sida, il doit parler de la drogue, il doit parler du chômage. Nous parlions de la guerre. On en avait une trouille bleue.
Ça veut dire que tous les rapports étaient quand même envisagés sous l'angle des rapports de force, toujours.
Toujours.
Est-ce que Kayat parlait avec vous? Est-ce qu'il parlait avec vous, justement, de l'adolescence, de cette peur-là? Est-ce que, entre chaque scène, on se mettait comme ça dans une sorte de réflexion? Ou comment se passaient les indications de jeu?
Moi, j'avais rencontré André Kayat au moment de mon engagement, après de multiples essais. Ça a duré aussi, ça, d'une façon insensée. C'était sans doute justifié, je ne sais pas. Et c'était surtout pendant ses essais qu'il m'a parlé. Je parle pour moi, hein, peut-être a-t-il fait la même chose avec les autres. Et il essayait de savoir ce que nous ressentions. Parce que quand il a commencé à nous engager, le scénario n'était pas tout à fait fini. Je veux dire que le dialogue n'était pas tout à fait fini et que Charles Spaak a profité beaucoup de ce que nous lui disions. Et c'est pour ça que, même maintenant, ce film n'a pas vieilli, je trouve, parce que il a mis dans la phrase des acteurs des phrases que les acteurs lui avaient données, que les jeunes lui avaient données. Quand on disait quelque chose à Kayat, on ne savait pas qu'il allait s'en servir comme ça. Donc on parlait d'une façon tout à fait spontanée.
Alors les indications très précises, par exemple, qu'il vous donnait à vous, sa conception de l'adolescence, par exemple, elle était donc liée au siècle, mais est-ce qu'elle était aussi liée à une conception plus vaste de l'adolescence, vécue comme période de crise, vécue comme période de prise de conscience, de rébellion contre les parents, tous ces thèmes?
Kayat disait... Je me souviens, bon, moi je jouais un chef de bande, si vous voulez maintenant dire un chef de gang, mais alors j'essayais parce que je savais pas, j'essayais de le faire un peu en roulant les mécaniques, et il me disait, mais pourquoi tu fais partie de cette jeunesse qui est fragile, demeure fragile? Et quand on parlait de la guerre, des images me bouleversaient, et il me disait, laisse-toi aller, allez hop, vas-y. Il disait toujours, ce qui tue l'adolescence, c'est que l'adolescent veut devenir un homme. Il a dit, la vie en fera un homme, s'il doit être un homme. Il ne faut pas se forcer.
Ingénu, fruit défendu. La version française de l'ingénu est assez libertine quand elle n'est pas perverse. L'ingénu perverse par excellence du cinéma, c'est Françoise Arnoux, qui débute fort dénudée dans L'épave de Willy Rozier en 1949, où elle fait plonger un pauvre scaphandrier transi d'amour pour elle. Ingénu, voire encore Vierge, Bon Sauvage, Gigi.
Gigi, c'est intéressant chez Colette, mais si on revoit la Gigi de Jacqueline Audry, je trouve Danielle Delorme délicieuse, mais délicieuse et sucrée, et pas subversive, pas dangereuse en quoi que ce soit, dérangeante en quoi que ce soit. C'est typiquement la jeune fille qui est faite pour satisfaire la convoitise des vieux messieurs masculines. Et qui entre parfaitement dans ce jeu-là et qui s'y épanouit. La version Danielle Delorme ou la version Leslie Caron dans Le Gigi de Vicente Minnelli, c'est la même chose. Ce sont des jeunes filles entièrement à l'intérieur d'une convention. Si on arrive aux ingénues perverses, ça devient déjà plus dangereux. C'est l'après-guerre, hein. Et l'après-guerre, il y a un film qui n'est pas passé inaperçu, mais qui a été lui aussi, je ne saurais pas comment dire, un petit peu éludé, c'est le Manon de Henri-Georges Clouzot avec Cécile Aubry.
Merci.
Je vous en prie.
Pourquoi avez-vous fait ça?
Je sais pas.
Qu'est-ce qui va vous arriver?
Soyez tranquille, on ne fusillera pas. Mais la tôle, sûrement, et encore pas tout de suite. Le plus grave, c'est que j'ai perdu un copain.
Vous avez gagné une amie. C'est pas mieux. Comment vous appelez-vous?
Robert Desgrieux.
Si je vous dégoûte pas trop, embrasse-moi.
C'est l'image donc de Manon, d'une prostituée, mais dans le cadre de l'Exode, et même, ça se termine en Israël, hein, ça se termine par le voyage pour aller coloniser la Palestine. C'est le désordre moral, mais Cécile Aubry, c'est une préfiguration de Brigitte Bardot tout à fait étonnante. Seulement, je crois que ça allait tellement loin, comme d'ailleurs les films de Clouzot de cette époque-là. C'est un cinéma tellement noir, tellement agressif à l'égard de la morale traditionnelle et admise, qu'il a fallu un certain temps, pratiquement 10 ans, pour que ça réapparaisse. Et entre-temps, il y a toute la phase. Alors, de comédiennes dont vous allez vous rappeler, Marina Vladi, Mylène de Mongeau, Dany Carrel, Pascal Petit, Isabelle Corré, Chica Chourreau et Françoise Arnoux. Et Françoise Arnoux a un film, Le Fruit défendu. Toutes ces comédiennes-là étaient des filles excitantes, des filles qui correspondaient au personnage de la Nadine des Mandarins de Simone de Beauvoir, des filles qui n'étaient déjà plus contrôlables, avaient conscience relativement d'être provocante, enfin en tout cas de provoquer le désir des vieux messieurs, et puis qui assez confusément le faisait, et ça se terminait, généralement c'était récupéré par un mariage, par un protecteur. Elles entraient dans un système où, d'une certaine manière, elles redevenaient objets en se vendant.
Est-ce que Bardot est vraiment une adolescente ?
Oh, oui, elle est adolescente, bien sûr, elle avait déjà fait pas mal de films, mais en tout cas...
Est-ce qu'on lui donne un air adolescent, ou est-ce que c'est une jeune première, ou est-ce que c'est vraiment une adolescente?
Qu'est-ce que c'est qu'une adolescente? Est-ce que l'adolescente, c'est
celle
qui a
Charlotte Gainsbourg est vraiment une adolescente, tandis qu'aux autres, très souvent, aux jeunes premières comme Bardot, Arnoux, etc., on demande d'avoir un air adolescent alors qu'elles sont déjà dans la première maturité. Enfin.
Oui, enfin, je crois que Bardot a commencé à 17 ans. Bon, effectivement, c'est déjà une jeune fille. Mais le problème... la fin des années 50, de l'adolescente, c'était un problème beaucoup plus cabreux que ça, c'était le problème de la virginité.
Hein. Bonjour. Je ne vous dérange pas?
Pas du tout. Je suis ravie de vous voir.
C'est pas possible.
Si, si, mademoiselle Laurier. Vous tombez très bien, au contraire. Je suis seul, vous allez pouvoir réaliser votre rêve. L'endroit est désert, nous allons en profiter. Déshabillez-vous.
Je ne comprends pas.
Vous comprenez très bien.
Comment vous voulez là, tout de suite?
Vous vouliez passer un week-end avec moi, n'est-ce pas? Vous m'avez empêché de partir pour Deauville avec une amie qui m'a fait les pires ennuis. Eh bien, allons-y, passons-le tout de suite, ce week-end. Déshabillez-vous.
Oh! Mieux! Tassir! Je vous déteste! Vous êtes un obsédé sexuel!
Si vous changez d'avis, faites-moi signe!
Vous n'entendrez plus jamais parler de moi, espèce de cochon!
Du côté du cinéma américain, il y avait encore le code Hays. Et ce code de moralité, même, qui commençait à tomber en désuétude, fait qu'il n'a pas été possible aux cinéastes américains de tourner avec de véritables adolescentes, par exemple Lolita, d'après Nabokov, un peu plus tard, ou tout simplement le Baby Doll. Le Baby Doll a été tourné avec Carol Baker, mais on avait vérifié qu'elle avait l'âge, qu'elle avait plus de 16 ans en tout cas. Et Elia Kazan a eu toutes sortes de contraintes à respecter pour que les apparences de la morale soient sauves. Mais il n'empêche que Baby Doll tourne entièrement sur le thème de la virginité. Pendant tout le film, elle refuse sa virginité à Eli Wallach, qui est le mâle latin emblématique. Et après Baby Doll en France, ce verrou de la virginité tombe.
My name is Lolita, and I'm not supposed to play with boys. What? Mon cœur est à papa. You know, la propriétaire.
1947, un film de Roger Lénart avait donné l'exemple d'un cinéma conçu avec des adolescents qui avaient enfin l'âge de leur rôle. C'était Dernières Vacances.
Alors c'est vrai que Roger Lénart, c'était ce qu'on appelle un cinéaste réaliste, si tant est qu'on puisse comme ça mettre des étiquettes aussi vite. Et effectivement, il est, je crois, le premier à avoir donné aux adolescents non seulement l'âge, un âge correspondant entre les comédiens et les héros du film, et en plus un autre point de vue, c'est-à-dire que c'est vraiment les adolescents qui se mettaient à parler. Dans le film de Lénart, c'est bien évidemment le point de vue de Lénart, en même temps avec le point de vue des adolescents qui est complètement respecté. Et c'est vrai, à ma connaissance, le film de Lénart est le seul qui soit allé aussi loin à ce moment-là de l'histoire du cinéma dans la représentation des adolescents.
Oui, parce que le problème qui se pose pour les adolescents, pour les films sur l'adolescence, c'est de savoir au nom de qui l'on parle, c'est-à-dire est-ce que c'est l'adolescent qui parle, c'est le problème que vous venez de soulever. Par exemple, ce que l'on voit dans le film de Sika,
Là, c'est l'adolescent. Oui.
Voilà, ou dans le Fellini à Marcord, oui. Bon, c'est une tentative d'autobiographie. Ou bien si on parle au nom de l'adolescence et si on les utilise.
Oui, si on les utilise en tant qu'adultes pour leur faire dire quelque chose. Oui, alors ça, bon, je crois que c'est...
Dans le Visconti, dans le Mourir à Venise.
Oui, tout à fait. La Mort à Venise, oui, effectivement. Alors là, c'est complètement un point de vue d'adulte sur l'adolescence. Et c'est vrai que Visconti s'est servi d'un adolescent, en fait, pour évoquer le problème de quelqu'un qui n'était plus du tout un adolescent. Et qu'à ce moment-là, l'adolescent, dans le film de Visconti, ça n'est qu'un prétexte à la fiction. C'est pas, peut-être c'est le point de vue de l'adolescent, mais c'est difficilement imaginable comme ça. Et c'est vrai que là, Visconti se sert complètement d'une image d'adolescent, c'est-à-dire que c'est la beauté, c'est la candeur, c'est la découverte, c'est l'initiation à quelque chose par un adulte, et qu'effectivement c'est complètement une image d'adulte, l'image qui est donnée dans Mort à Venise, et là l'adolescent comme prétexte, et pas du tout comme personnage à part entière qui aurait quelque chose à dire en son nom propre. Et je crois que c'est une des inventions du cinéma moderne, d'avoir justement donné la parole directement à des adolescents. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont mis à écrire leurs textes, mais un point de vue complètement de l'intérieur et plus du tout de l'extérieur. Et c'est vrai que ça, c'est apparu avec des gens comme Piala, avec des gens comme Godard, avec le film d'Eustache notamment, qui est, je crois, un des plus beaux films qu'on ait fait.
Mes petites amoureuses,
oui, un des plus beaux films qu'on ait fait sur l'adolescence. Et là, on peut dire que c'est le point de vue de l'adolescent, dans la mesure où c'est un film autobiographique aussi, et que Eustache s'est servi vraiment à la lettre des souvenirs qu'il avait pour faire parler cet adolescent. Et là, il y a adéquation pratiquement totale entre le point de vue du réalisateur adulte et le point de vue du personnage qui est montré dans le film.
Tu vas au casse où ?
Oh ben ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement.
Ah bon ?
Ça me fait des vacances, quoi.
Sinon, tu es en pension ?
Quoi, là ? Oui, je suis en pension interne, quoi. Je sors juste aux grandes vacances.
Mais là, ils vont pas être contents, alors, de te voir manquer comme ça.
Oh, mais eux, ça fait rien, du moment que je suis content.
Ah bon ? Je suis ancienne. Et ta maman joue, hein, au cinéma ?
Oui, oui, aussi.
Quel nom ? Comment elle s'appelle ?
Jacqueline Pierreux.
Ah, ouais. Et tu connais Monsieur de Barqui, je vois ?
Oh, ben, moi, je connais pas grand monde. C'est ma mère qui le connaît, puis alors, on l'a rencontré sur les Champs-Élysées.
Ah bon ?
Alors, ma mère, justement, elle a dit, tiens, Monsieur, enfin un ami, on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors il a dit, il y a mon fils, hein. Puis il a dit, bon, ben, envoyez-le de ma part. Et alors de ma part, on a envoyé une lettre de sa part.
Première rencontre de Jean-Pierre Léo et François Truffaut en vue du tournage des 400 coups en 1959. Claude de Givray, assistant de François Truffaut.
Très tôt, donc, puisque j'ai eu la chance de travailler avec Truffaut, que j'ai été l'assistant de son premier court-métrage, qui était Les Mistons, qui était un court-métrage d'ailleurs sur l'adolescence. Donc j'ai vu un peu la manière dont Truffaut traitait l'adolescence et comment, notamment aussi, il travaillait avec des petits adolescents. Parce qu'en ce qui concerne le cinéma, enfin, il y a une manière, il y a peut-être des gens, des réalisateurs qui se. qui ne réussissent pas bien leur coup parce qu'ils n'arrivent pas à incarner un petit peu, enfin, à incarner leur écriture, leur fantasme vis-à-vis des comédiens. C'est vrai que c'est pas commun de diriger des petits adolescents et retrouver la pureté qu'il y a, de pas gommer. Vous savez, c'est souvent catastrophique quand on tourne avec des jeunes comédiens de voir que bon, on commence à répéter avec eux tout ça, où on a fait une lecture et puis le lendemain ils viennent pour tourner et puis ils viennent complètement dimanchés, habillés, disant faux. Moi, ça m'est quand même arrivé un jour, en tant que réalisateur. Et le comédien disait faux. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe l'autre jour? J'étais avec toi, on avait fait de la lecture, ça allait bien. Il me dit, mais hier soir, la maman m'a fait répéter mon rôle. J'ai bien compris qu'on avait donné à ce moment-là toutes les idées reçues sur l'adolescence. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'idées reçues sur l'adolescence. Et c'est vrai qu'en France, moi, je trouve personnellement qu'en général, les adolescents sont mal montrés. On les montre, on leur donne un dialogue de petits monstres, de petits adultes. On les fait parler comme des petits adultes, on leur donne des mots d'auteur, des soi-disant mots d'adolescents qui ne sont pas des vrais mots d'adolescents. Et je pense d'ailleurs que c'était très typique. Dans les Mistons de Truffaut, il y a une séquence où les gosses, les petits Mistons, courent dans la rue et arrachent une affiche d'un film de Jean Delannoy qui s'appelle « Chien perdu sans collier ». Bon. Et c'est vrai qu'en partie, Truffaut aussi avait envie de parler de son adolescence, parce que pour lui, en plus, elle était particulièrement critique, cette période-là. Et c'est vrai aussi qu'il n'aimait pas la manière dont, la plupart du temps, dans le cinéma français, on parlait de l'adolescence. Il trouvait justement que c'était une manière un peu... Donc, alors, disons que c'était un peu symbolique, c'est les petits Mistons qui déchiraient cette affiche, quoi. Mais c'est pas tant contre Cesbron, je sais pas quoi, enfin contre globalement, quoi, je veux dire, et puis le traitement qui en était donné, c'était pas uniquement Delannoy, c'est une tradition dans le cinéma français, et c'est vrai que Truffaut essayait, quand il parlait de l'adolescence, d'aller le plus près possible de la réalité, de la vérité. Je sais que quand il a fait donc son premier film sur l'adolescence, le premier long métrage, avec les 400 couches, et qu'il a travaillé avec Marcel Moussy, et que moi je les avais vus un peu travailler à l'époque, et c'est vrai que, en dehors du fait que Truffaut avait une mémoire formidable de cette période-là, ce qui était relativement facile, parce qu'à l'époque, il avait 25 ans. Donc, il avait une période, il mesmérisait, il me racontait qu'il avait gardé toutes les photos de classe qu'on faisait comme ça. Et il est arrivé à se les mesmériser, si on peut dire. Il regardait ses photos de classe, il essayait de retrouver les noms de ses copains, et essayait de revoir ses copains en action, les copains qui sont toujours au garde-à-vous, devant une photo de classe, et en même temps, comment les gosses, comment ils étaient, et leur comportement. Donc, si vous voulez, il n'y a pas uniquement, c'est vrai qu'on dit volontiers que les films de Truffaut sont autobiographiques, c'est vrai qu'il puise en partie dans sa vie, et dans la réalité de sa vie, pour trouver les mots justes, mais aussi il puise beaucoup dans la vie des autres. Et pour échapper à l'anecdote, on peut dire aussi qu'il essaye, et je sais qu'avec Moussy, il faisait ça, de lire des bouquins comme ça sur l'adolescence, des bouquins généraux. C'est-à-dire qu'il ne garde de tous les détails qui peuvent lui sembler intéressants sur l'adolescence, il ne garde que ce qui va fortifier un certain nombre de généralités pour échapper à un marginalisme. Donc c'est vrai que ces films, quelque part, sont un peu universels. Grâce à ça, c'est parce qu'il les confronte à l'ensemble de la réalité.
Mais ça m'étonne que je ne l'ai pas remarqué avant.
Ouais.
Oh la vache, elle me plaît vraiment. Mais alors vraiment? Et sa copine, elle te plaît pas? Ça serait lâchement chouette et pratique.
Tu sais, je suis déjà amoureux de ma cousine. Elle a des cheveux longs superbes. Cette idiote-là, elle veut se les faire couper la semaine prochaine. Sûrement qu'elle me plaira plus les cheveux courts.
Mais est-ce qu'elle est amoureuse de toi?
Je sais pas, je lui ai encore rien dit. J'attends pour les cheveux. Si je continue à l'aimer avec les cheveux courts, alors je lui enverrai une déclaration par la poste.
Quand nous avons travaillé, c'était la post-adolescence, mais quand nous avons travaillé sur le scénario de Baiser volé, donc c'est vrai que on a lu, parce qu'on connaît avec Bernard Revon, qui faisait le scénario avec moi, bon, on a lu un certain nombre de bouquins sur l'adolescence, et notamment, il y avait dans un des bouquins, qui est un bouquin qui date d'il y a 40 ans, comme ça, enfin, qui faisait autorité, j'ai complètement oublié ce que c'est que ce bouquin, qui était un bouquin fait par un sociologue. Et j'ai compris beaucoup de choses, d'ailleurs, un bouquin sur l'adolescence, parce que dans ce bouquin, il explique pourquoi c'est un âge, ça m'a même aidé plus tard, quand j'ai eu un fils qui a eu 16 ans, enfin 15-16 ans, un âge, pourquoi on laisse tomber les choses, qu'on est maladroit et tout ça, c'est parce qu'effectivement, on a même physiologiquement une période où son corps grandit très vite, on est un peu, on n'arrive pas bien à attraper les choses, pourquoi les crises mystiques, pourquoi les gens, c'était très bien analysé, et notamment, ce qui était formidable, formidable dans le bouquin, c'est que le type disait, ah, dans les mémoires d'Anatole France, il y a quelque chose de très intéressant et qui montre ce qui est typiquement un comportement d'adolescent. Et disait-il, voilà, Anatole France raconte qu'un jour, il était adolescent, il y avait l'ami de sa mère qui jouait du piano, et l'ami de sa mère dont il était un peu amoureux, comme ça, et elle lui a demandé, donc...
Vous aimez la musique, Antoine ?
Il était tellement troublé qu'il a répondu...
Oui, monsieur.
Et donc, c'est vrai que c'est l'anecdote qu'on a mise dans Baiser volé. Et parce que ça a ravi Truffaut. Je veux dire, c'est vrai que pour lui, c'est un truc formidable. Et c'est vrai que ce gars, ce type qui avait écrit le bouquin sur l'adolescence aussi, était... Donc, ce qui intéressait beaucoup Truffaut, c'était les petites choses comme ça qui sont porteuses de tas de sous-entendus, des petits, plutôt que de sortir des grandes considérations. Il l'a fait un peu, hein. C'était pas l'adolescence, c'était l'enfance, mais c'est vrai que la fin de l'argent de poche est un splendide plaidoyer pour, disons, la préadolescence. Et c'est vrai que Truffaut a une adolescence qui a été très marquée, et c'est vrai que c'est pour ça peut-être qu'en plus, il en a très bien parlé.
Vous savez, je pensais qu'on se reverrait plus, vous ne m'avez pas écrit depuis 6 mois.
Bon, oui, mais... Le plus souvent, j'étais en prison ou bien à l'infirmerie. Et puis, au début, quand vous écrivez, vous ne me répondiez pas tellement souvent.
Moi aussi, je répondais. Pas à toutes vos lettres, évidemment, il y en avait tellement. Une fois, j'ai compté, j'en avais reçu 19 dans la même semaine. Je me demandais même quand vous preniez le temps pour les écrire.
Oui, moi aussi.
Et puis, elles n'étaient pas toujours très gentilles, hein. Audite, quel est votre jour de repos?
Le mercredi.
Bon, alors vous venez dîner à la maison, mes parents vous invitent.
Ah ben, très bien entendu. D'accord, volontiers.
Baiser volé, c'est à la fois des choses qui me sont arrivées, qui sont arrivées au co-scénariste, qui sont arrivées à Truffaut. Donc c'est vrai que c'est... Mais on choisit des choses qui sont arrivées à la femme de Truffaut. L'argent de poche. Dans l'argent de poche, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça qui sont des anecdotes c'est pas moi qui ai fait le scénario, mais en fait qu'on avait trié, qui avait été trié et tout. C'est sur l'enfance, quoi.
Miller disait qu'il y avait deux grandes difficultés pour parler des adolescents, c'était le langage et la sexualité. C'était les deux pièges.
Oui, là, je crois qu'il a raison. C'est vrai, c'est une bonne idée ce qu'il dit. Oui, c'est vrai. Le langage, c'est un peu ce que je vous disais, parce qu'on a tendance à dialoguer. C'est vrai que souvent, Truffaut, par exemple, n'écrit pas les dialogues pour les adolescents ou pour les enfants. Il les écrit à la troisième personne. Donc il dit, j'exagère, mais enfin il dit, hein, Pierre rencontre Georges et lui dit que la soirée précédente, il a vu tel film à la télévision et tout ça, pour que le gosse lise, ne sache pas, enfin qu'il ne soit pas influencé par un dialogue, et éventuellement il va faire le dialogue, il va refaire le dialogue avec le jeune comédien. Vous voyez, pour avoir le vrai, enfin, il faut pas non plus faire de l'hyper-réalisme avec plutôt du faux réalisme avec des dialogues de gosse. Donc il faut un peu à un moment donné styliser. Mais enfin, c'est vrai aussi que Romer, c'est un peu plus loin que l'adolescence. Mais c'est vrai que Romer, il y a un phénomène d'aller-retour. C'est-à-dire que vous écrivez ce que vous pensez. Après, vous le confortez auprès de comédiens. Vous dites comment tu le dirais, comment tu le ferais. Et bon, et puis vous voyez un peu comment le comédien le dit. Et quelquefois aussi, il faut le réécrire pour que ça soit, parce qu'on fait aussi une œuvre d'art. Donc on ne fait pas du reportage, donc effectivement il faut aussi le réécrire un peu. Pour le langage, le grand morceau de bravoure des 400 coups, c'est une interview. Vous savez comment ça s'est passé, l'interview de, à un moment donné dans le film, Jean-Pierre Léo est censé aller voir une psychologue, hein, et donc c'est Truffaut lui-même qui s'est enfermé avec Jean-Pierre Léo et qui a posé les questions, et puis il a filmé comme ça toutes les réactions de Jean-Pierre Léo aux questions que Truffaut posait. Et bon, et après Truffaut avait dit, il a cherché longtemps une comédienne qui faisait le rôle de la psychologue et à qui il allait simplement filmer, enfin il l'a filmé en train de poser les questions que lui Truffaut avait posées, et puis finalement il a dit, après tout, à quoi ça sert de filmer quelqu'un, et donc il a mis simplement Jean-Pierre Léo qui rentre dans le bureau de la psychologue, et puis on ne voit jamais, on entend une voix mais on ne voit jamais la psychologue. Et notamment, comme il y a une complicité formidable, il y a des choses qui ne s'inventent pas. C'est vrai qu'à un moment donné, donc Truffaut demande à Jean-Pierre Léo, donc ça a été repris par la voix de la psychologue, mais elle lui dit, est-ce que tu as déjà couché avec une femme? Et il dit, non, j'ai jamais couché avec une femme, mais j'ai un copain qui l'a fait. Et c'est vrai que je trouve ça adorable, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'est des trucs... c'est vrai que ça ne s'invente pas, quoi. Je veux dire, quelque part, c'est vrai. Et c'est brutal. Ça n'a pas été réécrit non plus. Et c'est vrai que moi, quand je travaillais avec Truffaut, par exemple pour La Petite Voleuse, c'est vrai que Truffaut pense très vite et qu'en même temps, il y a des choses, il y a des scènes qu'il ose faire parce qu'il sait comment elles vont être dialoguées. Il y a des fois, il y a des scènes qui peuvent avoir l'air bien dans une construction, et il dit « je ne la prends pas parce que je ne saurais pas la dialoguer ». Enfin, ça ne donnera pas un bon dialogue. Bon, et alors donc, quelquefois, donc, quand on y pense à une scène, quand on pense à une scène, quand on lui propose une scène, il est là, il réfléchit, il dit « non, ah oui, mais tiens, ça pourrait marcher ». Et il commence à esquisser quelques mots de dialogue. Et ce sont des mots de dialogue... Il travaille beaucoup, il avait une oreille formidable, Truffaut, qui sont d'une justesse terrible. Il ne s'agit pas de les prendre sur le papier et de M. Bercy de les restituer et de les redonner avec comme ça, à peu près. Et donc, moi, je travaillais beaucoup avec un magnétophone, avec lui, parce que comme ça, allait très vite. Donc, tout d'un coup, presque dans un état second, il disait oui, un tel peut voir un autre, un tel qui va dire nanana, 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 pof. Il trouvait le mot juste. Si moi, je l'avais pris comme ça, écrit, j'aurais peut-être sauté un et ou j'en aurais mis un en plus et tout ça. Et donc, après, quand je reprenais mes notes, j'avais mes notes au magnétophone et je lui remontrais le dialogue qu'il avait comme ça inspiré, qu'il avait donné. Et donc, je lui remontrais, et c'est vrai qu'en général, il me disait, tiens, c'est très bien, là, t'as trouvé quelque chose de formidable. Je lui dis, non, c'est pas moi, c'est toi qui l'as trouvé.
Alors, le second écueil à éviter, ou la seconde difficulté, c'est celui de le problème de la sexualité des adolescents.
Oui, c'est vrai, parce qu'on va. Ou on est trop puritain, ou alors on est trop graveleux. Et que souvent, c'est vrai que les jeunes, ils arrivent. Dans la plupart des cas, c'est pas, oui, c'est vrai qu'ils arrivent toujours à parler de choses assez scabreuses, mais ils en parlent avec un charme, une ingénuité, parce que effectivement, c'est aussi un peu la première fois qu'ils en parlent, quoi. Donc, il y a comme ça, on a du mal. C'est vrai qu'en réfléchissant bien à sa propre sexualité, on arrive à retrouver les choses. L'époque, comment on apprend que les enfants viennent au monde, comment on fait l'amour, les choses comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est toujours sauvé par même les choses les plus grossières sont sauvées par une certaine ingénuité, et si on n'a pas cette ingénuité, on est à côté de la plaque. C'est vrai qu'il faut... Enfin, c'est un exercice, quoi. C'est vrai que toute la réflexion sur l'adolescence, il faut être très, très humble. C'est une richesse formidable. Moi, je trouve l'adolescence, comme je disais, c'est le point commun de... C'est le début, un point commun de toute l'humanité, comme ça. Et ce qui est intéressant dans l'adolescence, c'est que c'est là pour souvent... dans l'enfance, bien sûr, dans l'essence. Ce qu'on fait, on le fait pour la première fois. Truffaut n'était pas nostalgique de l'adolescence. C'est ça qui est formidable en même temps. Il en parlait de plein pied. C'est peut-être aussi parce que les gens qui parlent bien de l'adolescence, ce sont des gens aussi qui... Peut-être est-ce que c'est aussi un exercice pour ne pas devenir con ou ne pas devenir vieux. Donc on se penche régulièrement sur son adolescence pour être toujours... Puisque un peu tout ce qu'on fait un peu dans la vie, c'est un peu par rapport à ses rêves d'adolescent.
Je ne peux pas choisir entre le vice et la vertu. Par hasard, je ne connais que la vertu.
Anne remercia Claude en disant « Vous nous sortez notre quiétude, nous aurions pu naître parmi ces filles. » Puis ils rentrèrent à la maison à bicyclette. Claude roulait derrière Muriel dont il fixait la nuque, la partie d'elle qu'il préférait puisqu'il pouvait la regarder sans être vu.
Mère désire vous parler.
Moi ?
Non, Claude.
Après le dîner ?
Non, je crois qu'il faut aller tout de suite.
On a dit à Truffaut, finalement, il a critiqué les adaptations, et puis lui-même en a fait un certain nombre. Mais c'est vrai que quand il faisait une adaptation, il gardait des pages entières. On l'a aussi reproché de garder cette voix off, qui faisait que ça embêtait quelquefois les gens. Mais c'est vrai que parce qu'il était conscient, il voulait rendre hommage à la manière, au style de l'écrivain. Et donc, comme ça, alors il trouvait un peu, je crois qu'il y avait un peu trop de... Il y avait un peu trop de scènes qui étaient un peu fabriquées. Il n'y avait pas toute la naïveté de du livre, quoi, je pense. Et puis la pureté de l'écriture du livre.
Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality.
Claude Pinoteau, La Boum, 1981.
Oui, alors La Boum, c'est encore complètement.
Vous n'avez pas cité La Boum.
Aussi.
Si vous l'avez cité.
J'ai été un petit peu obligée de citer La Boum parce que bon, c'était le film sur l'adolescence vu d'un certain point de vue. Là, c'est l'adolescence un petit peu dorée, c'est-à-dire que l'adolescence, c'est un peu des problèmes métaphysiques parce qu'elle n'a pas le droit de sortir le soir et que c'est bien ennuyeux d'avoir à rentrer le soir chez papa et maman. Et en même temps, papa et maman sont quand même là pour veiller à ce que les adolescents en question deviennent un jour des adultes respectables. Donc c'est encore un autre monde, celui de La Boum. C'est l'adolescence avec des problèmes dits métaphysiques qui sont en fait des problèmes... À mon sens, sans grand intérêt. Mais...
Alors, dans les Pialas, les petites amoureuses de Stache, dans certains Godard même, c'est tout à fait un autre univers, une autre adolescence.
C'est une autre adolescence, oui. Alors, on pourrait dire d'une certaine manière, chez Godard, on rejoint un petit
Truffaut,
peu...
Truffaut, j'allais oublier.
Oui, c'est vrai qu'il y a Truffaut aussi. Chez Godard, on rejoint un petit peu la problématique de Bresson, c'est-à-dire qu'en général, les adolescents qui ont été montrés par Godard, en général, on ne va pas plus loin. Je veux dire, dans Masculin-Féminin, Jean-Pierre Léo meurt de façon stupide, donc de toute façon, il n'accédera pas à l'âge adulte. Et ça n'est pas non plus un âge doré du tout. Les adolescents vus par Godard sont des gens qui s'ennuient, sont des gens qui se demandent en permanence ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Bon, c'est des adolescents sans avenir. Les adolescents de Godard, en tout cas, bon, il a cessé de s'y intéresser d'ailleurs. Depuis un certain temps, Godard. Apparemment, les adolescents l'intéressaient dans les années 60. Maintenant, il est passé complètement à autre chose.
Tu sais, hein, c'est pas tellement agréable de vivre sans aimer personne. C'est pas que j'aime personne, d'ailleurs. Tu vois, mon père, je l'adore. Enfin, ça me fait une belle chance. Mais ça me fait peur, quand même. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir le cœur sec.
Mais t'es jamais tombée amoureuse d'un garçon, alors?
Si.
Alors pourquoi t'es pas avec lui?
Je sais pas, c'est de ma faute. Je sais pas ce que je faisais.
Tu penses souvent à lui?
Ça m'arrive. Enfin, j'ai pas envie de parler de ça.
Moi, je sais ce qu'il te faudrait.
Quoi?
Un costaud. Un maître, quelqu'un qui te domine, quoi.
Moi, je sais pas. Peut-être, hein?
J'en suis sûr.
Voir.
Tu sais, ça viendra. T'es encore jeune.
Je sais pas. Tu vois, souvent je me dis que ça arrivera plus jamais. Puis autre chose, quand je rencontre un type, je pense à mon père. Puis je me dis, enfin, je me pose des questions, c'est dingue. Je me demande s'il lui plairait, ce qu'il trouverait que c'est un garçon bien. Humainement, je veux dire.
Dans le fond, t'es une fille sérieuse.
Ouais, si on veut.
Piala, c'est pas très gay non plus. Hein. Les adolescents de Piala, c'est aussi... Alors bon, c'est différent, parce que c'est l'adolescence triste. C'est
l'adolescence du Nord.
C'est l'adolescence du Nord. Bon, c'est dans Passe ton bac d'abord. C'est les adolescents qui ont 15, 16 ans, 17 ans, enfin quasiment l'âge du bac, et qui savent déjà, à l'âge qu'ils ont, que rien ne les attend après. Donc, essayent d'occuper le temps. Hein. On les voit dans plusieurs scènes du film. Ils passent, je crois, la moitié du film au café, parce que c'est un des seuls endroits où ils se retrouvent ensemble. Mais c'est aussi des gens qui ne parlent jamais d'avenir, les adolescents de Piala. De la même façon que Sandrine Bonnaire, dans À nos amours, ne parle jamais d'avenir, essaye de vivre au jour le jour, et vit plutôt mal, puisque son problème, c'est... de ne pas arriver à aimer. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est une adolescente déjà vieille, il lui semble qu'elle a fait le tour de l'amour, et bon, c'est ce qui est dit dans le film, elle peut coucher avec des garçons, mais elle ne peut pas vivre d'histoire d'amour avec eux. Oui, c'est l'adolescence triste. C'est terrible, Piala.
Toi, à partir de demain et pendant une semaine, tu seras mis à la porte de la classe. Et tu resteras dans mon bureau à faire des devoirs.
Et l'assistante sociale?
Elle a démissionné. On a personne pour la remplacer. Alors, attends, viens avec moi, toi.
Vous avez vu l'heure? Moi, je me tire. Doucement, hein. Ou je te ferai regretter d'être né, moi.
D'abord, je viens à l'école quand je veux. Et je me tire quand je veux.
Fejria Deliba, chef de bande dans le film de Jean-Claude Brissot, De bruit et de fureur.
C'est le monde de la banlieue, de gens un peu largués, l'adolescence, mais l'adolescence un peu grave quand même. Hein, c'est-à-dire des gens qui sont livrés à eux-mêmes et où leur seul moyen de s'en sortir, c'est un peu le thème de la loi de la jungle, quoi. C'est les immeubles HLM, c'est la pauvreté, c'est on voit un peu l'ambiance chez Marcel, le père. L'ambiance de famille, où t'entends tous les voisins, où t'as... Donc c'est dans cette vie-là, dans cette ambiance de vie-là, de ces jeunes-là, parce qu'ils sont pas tous comme ça, mais ceux-là, là, qu'on a choisi de filmer, comment on fait quand on est jeune et qu'on a envie de s'en sortir. Bah c'est ça, c'est la loi de la jungle, c'est le sauf qui peut, et ça se termine mal ou ça se termine bien, mais... Déjà, moi, je connais tout à fait le milieu, puisque j'ai grandi en banlieue sud. Donc tout ça, je l'ai vu, je le connais, je sais ce que c'est. Je viens pas d'un, c'est mon milieu, disons, à la base. Après, on s'en sort ou on s'en sort pas. Je m'en sors, donc je peux jouer ce film-là.
Dis donc, Mila, t'as vu ce que j'ai trouvé sur lui? On lui coupe?
Non. T'es sur notre territoire? Tu vas voir ce que ça coûte. Tu vois? Je suis arrivée à faire ce que tu voulais. T'es contente?
J'ai écrit donc le scénario il y a 10 ans à partir de ce que j'avais vécu moi-même et de ce que je découvrais de la réalité de l'époque. Je répète, le scénario reprend l'expérience que j'ai pu avoir pendant 6 mois. Je ne suis pas le prof, mais j'ai pris un modèle. Et bien qu'étant issu de milieux très proches de ceux que je montre dans le film, j'ai quand même été interpellé parce que j'avais en face de moi une réalité, tout ce qu'il y a de plus nouvelle. Et qui m'a réellement interpellé. Et au début, le film a été l'écriture du scénario a été l'expression d'une interrogation sur ce qui se passait. Et au fur et à mesure que je travaillais dessus, j'ai été amené à me poser des questions beaucoup plus vastes que, disons, celles relatives à une simple analyse sociale. Et l'orientation du scénario a plus été, si vous voulez, celle d'une réflexion sur des questions fondamentales de la vie, entre autres le bien et le mal. Vous avez pu remarquer, par exemple, que dans le film, c'est vrai qu'il y a des problèmes de violence ou de délinquance, mais qu'il n'y a pas de drogue, qu'il n'y a pas de crise. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de drogue? Pour une raison très simple. C'est qu'à l'époque, la drogue, c'est vrai, circulait déjà dans les établissements scolaires, mais les enfants dont il s'agit, qui avaient 14-15 ans, n'en vendaient pas et n'en prenaient pas. Or, les phénomènes de violence étaient les mêmes. La crise ne sévissait pas dans ces milieux. La plupart des parents avaient des revenus bien supérieurs aux miens en tant que prof, et pourtant, la violence était la même. Autrement dit, et la drogue et la crise, qui sont les explications officielles de ces phénomènes, à mon avis, masquent la réalité plus fondamentale.
Ouais.
Et ces réalités, si vous voulez, plus fondamentales, m'ont renvoyé, je répète, à des questions plus vastes sur l'origine de la morale ou des choses comme ça. Et le film est l'expression de ces interrogations, d'où une certaine forme de stylisation, d'où aussi des éléments comme le fantastique, l'apparition et autres, et un certain mélange des genres. Le film, par exemple, n'est pas du tout naturaliste. C'est pas du tout une analyse sociale naturaliste où ça ne se veut pas comme tel. Parfois, en France, ça a été perçu comme ça. Mais j'ai envie
avec
de dire...
des incursions mystiques, on a parlé de mysticisme.
Oui, ça, c'est, je crois que c'est plus juste de le voir un petit peu comme ça. Parce que le reste, je n'ai pas voulu faire un film social. Et souvent, les gens, enfin, si, renvoient une actualité sociale réelle, mais qui a été complètement stylisée, si vous voulez. Je n'ai pas fait un documentaire sur la banlieue qui ne m'intéressait pas. Bien que tout ce qui soit dans le film soit également juste, atténué par rapport à la réalité, je précise.
Tu tires, tu vises sans respirer.
Allez, vas-y. Tu visais sur quoi ?
La bouteille. Qu'est-ce qui t'a appris ?
Mon père, il dit que je suis né comme ça. Je crois qu'il exagère. Un peu. Vas-y, remets des bouteilles. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais monter sur le toit avec un fusil à lunettes et je tirerai sur les passants. Et quand les flics, ils arriveront, je les descendrai un à un.
Tu deviens dingue ?
T'as raison. Comment est-ce que je ferais pour redescendre du toit ? T'es un vrai copain, toi.
Est-ce que vous pensez que le problème du sens de la vie, c'est justement un problème qui est tout à fait lié à l'adolescence ?
Il se trouve qu'au niveau de l'adolescence, le problème se pose davantage. Entre autres parce que, comme il se pose plus spécifiquement dans des périodes de crise ou de passage d'un moment, d'un état à un autre. Et l'adolescence, tout comme l'enfance, sont souvent des, comment dire, sont des périodes où se pose justement ce type de questions, enfin où les enfants se posent ce type de questions d'une part, et où en plus, alors ça, j'ai choisi ces milieux pour deux raisons. Ça m'intéressait de choisir des lieux d'une part où pouvait se trouver concentré un certain nombre de contradictions, de situations conflictuelles avec les contradictions de notre société. C'est pas pour rien que j'ai choisi l'enfance et l'école, parce que dans l'enfance et l'école se trouve, se cristallise, je répète, toutes les contradictions d'une société, avec ce que j'appelle moi ces points aveugles, c'est-à-dire, vous savez, je pense que toutes les sociétés vivent, reposent malgré tout sur un minimum de tabous. C'est clair en ce qui concerne les sociétés primitives. C'est beaucoup moins clair. Ça se forme sous la forme de ce que j'appelle moi de points aveugles dans nos sociétés à nous. Et on trouve beaucoup plus. Il y a certains lieux qui sont, ou certaines périodes de la vie qui sont des endroits où on voit mieux ces contradictions, où il y a l'école et pour moi l'enfance, tout au moins l'adolescence. C'est pas pour rien d'ailleurs que lorsqu'il y a des grandes périodes de crise sociale, c'est surtout à l'école et dans le milieu des adolescents que ces crises sont les plus violentes et les plus longues.
Dans De bruit et de fureur, il y a un modèle de père et un modèle de mère, enfin une mère qu'on ne voit jamais mais qui est toujours absente.
C'est exact.
Et un modèle de père auquel on ne peut pas s'identifier.
Le gamin essaie de s'identifier à ce modèle-là. Non, mais le gamin essaie de s'identifier à ce modèle-là. Et c'est d'ailleurs sa tentative d'identification qui entraîne un certain sentiment d'infériorité, entraînant elle-même un désir de compensation qui le conduit à aller, puisqu'on le laisse libre, de plus en plus loin.
Bah, tu me fais des poches ?
Ouais. J'ai le droit de tout savoir sur ta vie à présent. Est-ce que t'es moche là-dessus ?
Claude Miller, La Petite Voleuse, décembre 88.
Elle est plus heureuse de la terre, non ?
Ouais.
Tu veux que je te dise avec qui je l'ai fait pour la première fois ?
Ah ben non, surtout pas, non.
Pourquoi surtout pas ?
Mais parce que ça doit rester secret, ça t'appartient. C'est précieux.
Tu parles d'un truc précieux et c'est pas précieux du tout. Un truc précieux, on n'a pas envie de le perdre.
Et toi, si ? Je trouve même que t'étais drôlement pressée.
Ouais, j'étais sûre que ce serait très gai.
Mais non, t'as pas trouvé ça dégoûtant.
Si, vachement dégoûtant. Puis épatant. On sait bien comprendre qu'on s'aime sans avoir besoin de dire des mots. Attends.
Ce qui m'intéresse, moi, parce que j'écris des fictions, donc j'écris de la dramaturgie. Pour qu'il y ait dramaturgie, il faut qu'il y ait conflit.
Il faut qu'il y ait une tension.
Il faut qu'il y ait une tension. Et c'est la tension qui m'intéresse, c'est celle qui naît obligatoirement entre adolescents et adultes. Pourquoi ? Parce que l'adolescence, c'est l'âge de l'idéalisme, où on est entier, où quand on désire quelque chose, on le désire de façon entière. Quand on veut quelque chose, on le veut de façon volontariste et il ne doit pas y avoir d'obstacle. Alors que quand on est adulte, bon, tout le monde sait que être adulte, c'est l'âge des compromis. C'est l'âge où on est obligé de faire des compromis avec l'existence. Et de là naît forcément une forme de tension qui m'intéresse.
Quels sont les écueils à éviter quand on filme l'adolescence ou quand on fait un scénario sur l'adolescence ?
Ce que je n'aime pas voir au cinéma quand on parle des adolescents ou des enfants, c'est qui est ce qu'on appelle en anglais du baby talking, c'est-à-dire que de les faire parler. Vous savez, c'est comme ces gens qui quand ils parlent à des enfants, se croient obligés de parler bébé ou de leur parler un langage très bizarre. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège de la mièvrerie, de l'attendrissement, de dire à cet âge-là, tout est rose bonbon et c'est l'âge où il n'y a pas de problème. Au contraire, hein, je crois que c'est un âge qui fourmille de problèmes.
Il y avait une difficulté qui était effectivement celle du langage. Alors là, il y a un langage qui est celui des adolescents, qui est redonné, hein, que vous avez essayé de retrouver, avec des petites incursions comme ça dans l'univers adulte, par exemple l'histoire du repas. Lorsqu'elle recopie les modèles adultes, elle dit c'est frugal mais excellent. Bon. Et puis il y avait l'autre piège, moi je pense, à éviter, qui était celui du traitement de la sexualité. Voilà. Alors à propos du langage, comment est-ce que vous avez reconstitué un peu cet univers de la langue adolescente ?
Par pure réminiscence personnelle, c'est-à-dire que on a tendance, quand on écrit des fictions, quand on invente des personnages, à se mettre dans la peau des personnages. Comme disait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Flaubert arrivait à être une femme adultère en province au siècle dernier. Moi, j'essaye d'arriver à être aussi bien, d'ailleurs, Jeanine que son oncle, sa tante. C'est normal, ça fait partie du travail de création. Je me mets dans la peau de... Bon, maintenant, il se trouve que... Pour peu que je me connaisse moi-même, je sais que les impressions, disons les plus fortes, qui me restent aussi bien dans les joies que dans les peines, sont dans ma vie, sont plutôt celles de mon enfance et de mon adolescence que de mon âge adulte. Ce qui m'est arrivé à l'âge adulte, bon, bah, je m'en souviens, mais j'ai l'impression que ça me marque beaucoup moins que ce qui m'est arrivé, disons, avant 20 ans. Et c'est très frais et présent dans mon esprit, et j'arrive assez facilement à me remettre dans la peau de cet âge-là.
Bon, et ben voilà, nous y sommes.
Si on se voit 5 fois, ben la 5e fois, vous me demanderez. Alors demandez-le moi tout de suite.
Vous avez quel âge ?
Mais j'ai l'âge, c'est tout. Oh là là, on se croirait à la police. J'ai 16 ans et je l'ai jamais fait, si c'est ça que vous voulez savoir.
Mais je veux pas être le premier dans la vie amoureuse d'une jeune fille.
Ah bon ? Même dans la mienne ? Mais il en faut bien, le premier.
Ne croyez pas que vous me plaisez pas, Jeanine. Vous me plaisez énormément.
Eh ben alors ? Moi aussi, vous me plaisez énormément.
Non, 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 c'est une question de principe.
Et un principe, ça veut dire jamais ?
C'est ça, oui, c'est ça. Un principe, c'est sacré.
Comme le Coca-Cola.
Quoi ?
Bah, vous avez dit que vous en boiriez jamais.
Ah oui, ben oui, si vous voulez. L'amour, c'est une chose très importante. Je vous assure, je peux pas déroger.
Ça fait rien. Dérogez pas, mettons, j'ai rien dit.
On peut se revoir si vous voulez.
Ah oui, ce serait gentil.
Bon, vous voulez venir à la chorale ?
Je veux bien, quand ça ?
Eh ben demain, entre 7h et 7h30, derrière la mairie, le cinéma de Dracard. Vous connaissez ?
Ouais, derrière la mairie, le Dracard, 7h, 7h30. C'est facile.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Hé, hey, Jeanine, je suis vraiment très content de vous avoir rencontré.
Merci, moi aussi. Beaucoup. Alors à demain.
À demain.
Le problème de ce scénario, c'est qu'en fait, elle est peu amenée à côtoyer d'autres jeunes dans le film, à part au Bon Pasteur. Et en général, la violence chez les adolescents ou chez les enfants s'exerce contre les autres enfants ou contre les adolescents, parce qu'avec les adultes, on a plutôt une attitude de soumission ou une attitude de, je dirais, sournoise, sans y mettre de notion péjorative, mais de contourner l'obstacle, oui, parce que simplement, là, on n'a pas la force de combattre ouvertement. Donc, quand les enfants ont de la violence, c'est en général à l'égard d'autres enfants, il me semble. Hein. Alors, comme la structure du film est ainsi faite qu'elle ne commence à avoir vraiment de rapport avec d'autres, avec des jeunes de son âge que au Bon Pasteur, parce qu'autrement, elle a des rapports plutôt avec les adultes, la violence, elle arrive surtout au Bon Pasteur. Enfin, à la maison de redressement.
Oui, la scène de la fourchette est difficile.
Voilà, elle est violente. Oui, c'est ça. Mais là, elle n'a pas le choix, parce que soit elle se laisse faire et donc elle va être brimée et bizutée, comme on dit, jusqu'à la fin de son séjour, soit elle se laisse pas faire. Et je crois que d'instinct, elle sent qu'elle ne doit pas se laisser faire, sinon elle est fichue dans ce milieu.
Les adolescents avec lesquels j'ai vu le film essayaient de se demander ce qui allait arriver, puisqu'on finit sur une note optimiste. Ils ont essayé de se raconter l'histoire après.
Oui.
Alors, quel est l'intérêt de cette fin ?
Et pour moi, c'est une fin optimiste, c'est une fin ouverte. Parce que, encore une fois, quand on a 17 ans, et même si on en a bavé avant, on a encore la vie devant soi. Et il y a une phrase dans le film qui a beaucoup d'importance pour moi. C'est, vous savez, dans la scène de la piqûre, justement, dans la maison de redressement, elle reçoit la piqûre, elle gueule un peu, et la bonne sœur lui dit « Gueule, ma fille, ça va pas te tuer, ce qui nous tue pas nous rend plus fort ». Et même si c'est pas dit avec une grande indulgence de la part de la bonne sœur, je trouve que c'est une phrase formidable, c'est vrai, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et moi, à mon avis, Jeannine, à la fin du film, elle est bien plus forte qu'au début, et elle est prête à affronter la vie.
Vous êtes d'accord avec Truffaut quand il dit que ce qu'il y a d'intéressant justement chez les adolescents, c'est que tout ce qu'ils font, ils le font pour la première fois. C'est
oui, un peu l'esprit. Non seulement je suis d'accord, mais ça a été la phrase qui m'a guidé pendant l'écriture du scénario et les dialogues du film et la mise en scène. C'était que ce qui m'intéressait surtout dans ce film, c'était de raconter toutes ces premières fois. Enfin, peut-être pas toutes, peut-être que je suis pas exhaustif, mais j'avais la volonté de raconter le plus possible de premières fois, que ce soit avec, encore une fois, avec l'amour, avec la sexualité, avec la loi, avec l'amitié, avec la peut-être le début de la passion d'un métier qui est la photo, là, en l'occurrence.
C'était les années 50. Est-ce que vous auriez fini de la même manière pour un adolescent aujourd'hui, si vous aviez à traiter ce genre de film-là, Claude Miller ?
Je ne sais pas. Il me semble qu'aujourd'hui, ça sera encore plus dur. Je pense qu'aujourd'hui, je vois mal un adolescent partir sur la route en autocar, enfin... Je crois que c'est plus dur aujourd'hui. Je crois que les années 50 étaient des années où les gens sortaient d'un truc terrible qui avait été l'occupation, où il y avait une espèce de grande bouffée d'oxygène, où il y avait encore où il y avait beaucoup d'espoir. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Je pense simplement que c'est encore plus difficile d'aborder la vie avec le plus de chance dans sa musette.
Est-ce que vous auriez autant d'optimisme ?
Peut-être que si j'avais traité le film aujourd'hui, peut-être pas, effectivement.
Février 89, la bande des quatre de Jacques Rivette.
Mais madame, écoutez-moi.
Non, Millier.
Ne faut-il pas être raisonnable ?
Non, il ne faut pas l'être. Et je ne le saurais point.
Cependant, je ne veux pas avoir de raison. Et quand vous recommenceriez 50 fois votre cependant, je n'en veux pas avoir. Que ferez-vous là ?
Vous avez soupé hier si légèrement que vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin.
Et moi, je hais la santé. Et je suis bien aise d'être malade. Ainsi, vous n'avez qu'à renvoyer tout ce qu'on m'apporte. Car je ne veux aujourd'hui ni déjeuner, ni dîner, ni souper. Demain, la même chose. Je ne veux qu'être fâchée, voyir tout sans que vous êtes, jusqu'à ce que j'ai vu Harlequin, dont on m'a séparée. Voilà mes petites résolutions. Et si vous voulez que je devienne folle, vous n'avez qu'à me prêcher d'être plus raisonnable.
Ça sera bientôt fait.
Feria Deliba et Laurence Côte, héroïne du film de Jacques Rivette.
On a travaillé beaucoup. On a beaucoup discuté des personnages et tout ça parce qu'on a un peu créé les personnages et enfin les rôles, les personnages ensemble. Laurence, Bernadette et moi. Inès est venue après, le quatrième personnage, parce qu'elle venait du Portugal et que c'était plus difficile. Donc toutes les trois, on a beaucoup travaillé ensemble, mais toujours avec la présence de Jacques, qui était là. Donc on a tout trouvé toujours ensemble et qu'on a appris à nous connaître. Nous, en tant que personne et actrice, et en tant que personnage, en même temps qu'on découvrait nos personnages, les autres les découvraient. C'est comme ça qu'on a travaillé, et que Jacques les découvrait. Donc c'est pour ça que c'est génial.
Est-ce que, justement, les dialogues se sont enrichis, par exemple, de ce que vous avez apporté ?
Ouais, beaucoup. Parce que c'était la méthode de travail de Jacques Rivette.
De votre langage à vous ?
Il y avait toujours aussi présent le scénariste, Pascal Bonitzer, et parfois Christine Laurent, qui étaient toujours là, à l'écoute, si tu veux, et nous, on trouvait, on parlait entre nous, et lui était là, un peu comme la mémoire de tout ce qui se passait. Mais nous, dans tout ça, on était complètement libres. Libres, ouverts, et lui, c'est un travail de beaucoup d'écoute de sa part. C'est que, après, les textes étaient écrits comme, un peu comme sur mesure, comme on fait un vêtement sur mesure. Là, on nous écrivait des textes en fonction aussi de notre façon de parler à nous. Mais tout a été toujours écrit, précis, on n'a absolument pas improvisé. Mais tout ça, c'est le travail de Pascal Bonitzer, quoi, le scénariste, qui a écouté et qui nous a laissé faire. Et qui a pris chez nous nos tics ou notre façon de parler, nos mots parfois. Des fois, il inversait aussi, c'est ça qui était très bien. C'est qu'il employait des mots d'une pour les mettre dans la bouche de l'autre d'une personne pour les mettre dans la bouche de l'autre personnage. Et comme ça, ça enrichit nos personnages, parce que ce n'est pas nous les personnages. C'est des personnages, de toute façon. C'est pas nous complètement, quoi.
Moi, je sais que pour écrire Claude, je me suis inspirée de deux choses qui étaient à moi. Et quelque part, moi, je parle en mon cas. Je sais que j'ai exorcisé des choses qui m'appartenaient complètement. C'est-à-dire que c'était un vieux rêve comme ça. Et je me disais, génial, on va pouvoir en profiter. Ce qu'on nous demandait de créer quelque chose. Mais en même temps, je le nourrissais de mon vécu, quoi. Et c'est pour ça que, enfin moi personnellement, par rapport à Claude, je trouve que c'était des choses à moi, quoi.
Je suis d'accord dans la mesure où, de toute façon, à partir du moment où on les inventait, ça sort de notre imaginaire et l'imaginaire, il profite de ton vécu et du vécu, ouais, de choses que t'as vécu autour. Mmh. Donc logiquement, ça nous appartient. Mais c'est quand même moi, c'est pas ma vie que je vous présente.
Après le 26, je vous indiquerai.
Ça va mieux ?
Ça va, merci.
Ça vous arrive souvent, ce genre de coupure ?
C'est la première fois. Pourquoi ? J'ai une tête à faire des histoires ?
C'est votre amie, elle vous dit rien. Enfin, notez, elle est prudente, ça va peut-être mieux.
Qu'est-ce qu'elle a fait ?
Rien, non, rien. Comment elle a rien fait ?
C'est un univers de femmes, de jeunes filles qui ont décidé de faire le même métier, qui prennent des cours de théâtre, qui se retrouvent là, au milieu d'un cours de théâtre où il n'y a que des filles. Des jeunes filles, parce que c'est ça, il faut voir le film pour comprendre pourquoi la question se pose et s'éclaircit ou s'éclaircit pas. De toute façon, ça reste un point d'interrogation et c'est très bien. Et elle partage un appartement parce qu'on n'a pas les moyens de s'en payer un toute seule. Je crois que c'est un peu des choses qui arrivent dans la vie aussi. Donc elle partage un appartement ensemble, elles habitent une maison. Et en fait, elles habitent ensemble par hasard. Ça, c'est par hasard. Et ce qui va les lier, elles ont chacune une personnalité complètement différente. Elles ne sont pas un groupe... elles ne sont pas forcément amies, effectivement, à la base. Ce sont des individus, comme ça, qui ont une personnalité très forte chacune et qui se retrouvent là parce que c'est la loi de la vie, c'est comme ça. Et ce qui va les lier, finalement, c'est quelque chose d'extérieur. Et ça, il faut...
Quelles sont les découvertes qu'elles font ?
À la base, il y avait 4 personnalités. Donc, c'est chacune... on est 5, donc 5, c'est toujours avant. Et je crois que chacune découvre quelque chose de différent. C'est-à-dire, en exposé, par exemple, le personnage de Joyce était quelqu'un de... À la base, qui devait être très moralisateur, c'est-à-dire, je sauve la veuve et l'orphelin. Donc, elle, dans son parcours, bon, je ne sais pas si on le comprend ou pas, mais ce qui était prévu, c'était que le personnage de Joyce, par exemple, réalise qu'en fait, c'est bien d'avoir des grandes idées sur sauver les gens, mais qu'au bout du compte, ce n'est pas si simple d'avoir cette envie de sauver. Et par le fait qu'elle rencontre cet homme, qui n'arrête pas de lui dire « les moralistes, ça me fait bander » ou des choses comme ça, elle réalise, bon, elle va carrément jusqu'à tuer quelqu'un. Donc, c'est tout à fait contraire à ce qu'elle défend. Donc elle se retrouve confrontée à ses grandes idées. C'est-à-dire qu'elle a des grandes idées comme ça en général, parce qu'elle a une nature généreuse et tout. Et elle s'aperçoit que la générosité, c'est peut-être pas forcément avoir des grandes opinions, mais c'est dans le concret, dans la réalité. Et elle, sa rencontre avec l'homme, va faire qu'elle va se trouver confrontée à ses propres questions. Ensuite, il y a le personnage. Moi, c'est comme je les vois comme ça, hein. Le personnage d'Anna, c'est quelqu'un qui, à la fin du film, quand le professeur disparaît, tout d'un coup se trouve confronté en tant qu'adulte, parce que bon, les gens commencent à vouloir laisser tomber, en disant non, on arrête, puisque Constance Dumas n'est pas là. Et Anna, tout d'un coup, se démarque, et je pense que c'est aussi parce qu'on a vécu tout ça, et dit non, il est hors de question qu'on laisse tomber. Il est hors de question, on va relever. Donc tout d'un coup, c'est elle, son personnage, se trouve à porter quelque chose parce qu'il y a eu ce vécu. Le personnage de Claude, c'est plus dans sa relation amoureuse, c'est-à-dire qu'elle est un peu mec, elle a une histoire avec une femme et tout. Donc elle, sa rencontre avec cet homme va la révéler à elle-même et découvrir que c'est une femme au bout du compte et que elle se révèle comme ça. Le personnage de Inès, il est beaucoup plus mystérieux, donc ça, je pourrais pas en parler. Mais c'est comme ça que je vois où en fait, on part toutes les trois, parce que j'arrive mieux à nous cerner toutes les trois, on part toutes les trois comme ça, avec une image très forte au départ, et il y a une évolution où chacun, tout d'un coup, trouve sa force par le fait que ce type est venu foutre la merde. Et au bout du compte, y en a qui ont pris le... Par exemple, Anna a pris le positif de cette chose, puisqu'elle se retrouve à sauver un spectacle. Joyce, du coup, elle chute carrément, alors que c'était la plus forte dans ses grandes idées. Et Claude, pour moi, c'est complètement... je trouve que c'est positif, parce que ça l'a révélé à elle-même, quoi, même s'il est mort. Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de triple et de quadruple initiation.
Ouais, je pense.
Moi, j'ai pensé que c'est ça, qu'on avait quitté un monde pour un autre, que tout avait basculé, que c'était... Justement, la fin d'une période comme ça, un peu adolescente, et que ça marquait l'entrée dans...
Tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire de Cécile, c'est ça qui va nous amener. C'est-à-dire que, bon, au départ, on est des jeunes comédiennes, apprenties, avec nos histoires de mecs, de nanas, enfin bon, très... Et tout d'un coup, il se passe qu'on a une de nos copines qui est confrontée à quelque chose de beaucoup plus grave. C'est-à-dire que son copain est impliqué dans une histoire policière, qui est prétexte, hein, parce que le but du film n'est pas l'histoire policière, c'est un prétexte. Et tout d'un coup, c'est là où on a tourné la scène du procès, tout d'un coup, on se dit, tiens, la vie, c'est pas si beau que, enfin, je veux dire, à part nos petits problèmes de mecs, de nanas, tout d'un coup, la vie, c'est aussi des problèmes plus graves, quoi. Et c'est pour ça que Jacques tenait, à mon avis, cette histoire de policière, c'était pour nous révéler à nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, par rapport à une situation grave, on fait ? On laisse tomber ou ok, on sauve notre copine ? Et en fait, celle qui était la plus prête à la sauver en arrive à tuer et vice-versa, quoi. Et c'est vrai que c'est le début des jeunes adolescents, enfin jeunes, des filles vers 23 ans qui sont là et qui pensent qu'à leur métier, si j'ose dire. Et tout d'un coup, la vie fait que ben, il n'y a peut-être pas qu'être acteur, quoi. Il y a aussi des problèmes plus graves, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est-à-dire qu'au départ, elles sont 4 jeunes filles, 5 jeunes filles. Et à la fin, grâce au théâtre, elles vont devenir quelque chose dans la société. Elles vont avoir un statut, quoi. C'est en ça qu'on passe de l'adolescence peut-être à être quelqu'un, quoi. À être plus mûr, parce que tout d'un coup, le théâtre nous apporte quelque chose où, bon, puisque l'amour, ça marche pas, puisque la vie a des galères, eh ben, mettons tout dans le théâtre, quoi. Mettons, appuyons-nous dessus et vivons avec, quoi. Moi, je le sens comme ça.
Être adolescent au cinéma, avec Françoise Audet, Anne-Marie Faux, Jacques Fayet, Claude de Givray, Jean-Claude Brissot, Claude Miller, Fejria Delibas et Laurence Côte. Groupe de réalisation, Josette Collin, Edwige Roncière et Monique Burguière.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 janvier 1989.
You're just too marvelous for words like glory. Glamorous, and that'll stand by amorous. It's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're much too much and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. love song from above.